L'instant addicto.
Bonjour à toutes et à tous, Sophie Deloume pour l'instant addicto. J'ai le plaisir de retrouver le docteur Bonin, médecin généraliste, addictologue et thérapeute. On a pu déjà échanger autour du produit alcool, puisqu'on sait le mois du Dry January. Et on va terminer ce mois sur la prise en charge en alcoolologie. Ça reste un grand questionnement hein, de ce produit qui circule dans notre société, ce produit qui ritualise nos liens sociaux. En termes de prise en charge, déjà débuté, docteur Bonin, par rapport au déni collectif par rapport à l'alcool. Et on pourra ensuite voir au niveau thérapeutique l'existant de ce qui existe au niveau des prises en charge en alcoolologie. J'aime beaucoup prononcer ce terme d'alcoolologie puisqu'on parle beaucoup d'addictologie. Mais dire l'alcoolologie, c'est vraiment faire focus sur le produit alcool qui a une histoire bien particulière. Et en termes de déni, docteur Bonin, je voulais commencer par le déni. Le déni collectif, sociétal, qu'est-ce qu'il en est? Et après, quand on parle du déni par rapport aux patients, en se disant comment peut-il conscientiser à un moment donné s'il y a une problématique par rapport aux produits alcool, docteur Bonin.
Par rapport au déni, je me souviens, je travaillais à la Gondillonnerie, un centre qui à l'époque était plus centré dans l'accompagnement autour du produit alcool. Je me souviens de patients qui, le week-end, pouvaient sortir en permission, sur autorisation, c'était organisé, et qui, quand ils revenaient au centre, donc ce centre accueille, qui existe toujours, accueille des patients qui, pour se mettre à distance du produit, restent 3 mois. Et donc, je me souviens très bien de patients qui revenaient de permission et qui revenaient alcoolisés, qui avaient pendant leur permission qu'ils avaient bu et ils avaient peut-être soufflé et puis l'éthylotest montrait qu'effectivement il y avait un score positif qui marque qu'il y avait de l'alcool qui était bu, mais de toute évidence on s'en rendait compte, je dirais qu'on était autour de cette personne, ce patient hospitalisé qu'il avait bu parce que bah il y avait la laine, je dirais notre odorat permettait de voir qu'il avait bu, il était je dirais un peu plus désinhibé que d'habitude et c'était assez facile à faire la différence, comme c'est des patients qui restent 3 mois en centre, eh bien forcément on les connaît quand ils n'ont pas bu et on voit le changement de comportement et puis même la démarche ébrieuse, un petit peu hasardeuse, moins précise que d'habitude, faisait que il était je dirais évident qu'ils avaient bu, leur corps, leur comportement, leur manière d'être le signifiait clairement et l'usage faisait qu'il y avait un entretien médical entre ce patient qui avait bu et puis moi, et donc je lui posais, je dirais, classiquement la question, monsieur, madame, est-ce que vous avez bu? Alors que je sentais, au moment où je posais la question, je sentais l'alcool. Quelques minutes plus tôt, j'avais vu sa démarche ébrieuse, il parlait de manière inhabituellement joviale ou désinhibée, je savais qu'il avait bu, son corps, son comportement le disait, et je posais cette question classique, et lui, dans la lignée de ma question disait bah non j'ai pas bu et ça m'interpellait beaucoup alors que j'étais convaincu, je savais qu'il avait bu, il me répondait qu'il avait pas bu. Et en fait c'est là où je me suis dit mais en fait le déni il appartient pas seulement à la personne qui boit, il appartient aussi et donc à la personne à qui on pose la question, le déni il appartient aussi à la personne qui pose la question. Ce déni était le résultat de la relation que j'avais à ce moment-là en lui posant la question avec ce patient. C'est-à-dire que je savais qu'il avait bu et je lui posais quand même la question « Avez-vous bu ?» Donc ma question, d'une certaine manière, était un peu débile, quoi. Donc il se mettait à mon niveau, il répondait de manière aussi débile et il disait qu'il n'avait pas bu. Et donc c'est là où je me suis dit, en fait, cette question, elle n'a pas de sens. Pourquoi ? Je dirais, elle est même brutale, violente, pas respectueuse de quelque chose que je sais déjà. C'est pour ça qu'après, je me suis plus trop posé la question du déni. Et j'ai plutôt considéré que lui et moi, nous savions qu'il avait bu, et plutôt que d'essayer avec irrespect de lui poser cette question « Avez-vous bu ?», considérer qu'on savait qu'il avait bu et de lui dire « Bah tiens, quoi, ça a servi de boire ?» ou enfin de poser autrement les questions. Et je pense que cette question du déni, elle n'intéresse pas. Elle est une construction de la relation, c'est une construction sociale et qui n'est pas à aborder de manière individualisée.
Vous avez choisi, docteur Bonin, Ricardo Tesi, Maroc. On écoute.
Des familles, hein, j'imagine, de là en Poitou-Charente, des familles où une personne est addict au niveau de l'alcool. Hein. Dans ces familles, c'est souvent très compliqué, docteur Bonin. Et après, voilà, est-ce qu'il y a aidant, pas aidant, comme on dit maintenant, quand on a affaire à une personne qui a du mal à s'en sortir, on se dit souvent, est-ce qu'il faut toucher le fond en addiction et en alcoolologie, en ce qui nous concerne aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut que la personne touche le fond à un moment donné pour se relever et conscientiser que le produit a pris trop de place dans sa vie.
Cette expression « toucher le fond », je l'ai souvent entendu des patients eux-mêmes qui addictent avec l'alcool ou d'autres produits. Ils me disent « Docteur, faut que je fasse quelque chose. Là, j'ai l'impression d'avoir touché le fond. » Alors, je ne sais pas si c'est le fond, mais du moins sans doute un fond. Je les entendais dire ça avec sincérité, de manière très, très vibratile. Et effectivement, peut-être qu'il faut toucher un fond, et là, ça me donne l'image que pour qu'une balle rebondisse, il faut bien qu'elle touche au fond pour pouvoir rebondir. Fond qui fait peut-être brutalité, qui est quelque chose un peu de âpre, avec de l'aspérité, mais sans doute, dans ce fond, il y a l'expérience d'une limite qui est renvoyée à la personne qui boit, parce que sans doute que quand on boit de manière répétitive, les limites deviennent imperceptibles et pourtant la réalité est là, notre réalité physique est là et oui, sans doute, pour rentrer en soin, il faut toucher un certain fond.
Rebondi, quand vous dites rentrer en soin, on se rend compte au niveau de l'alcoolologie, la personne peut aller faire une cure en centre thérapeutique, comme vous le disiez, la gandillonnerie qui existe toujours sur Pérou avec à peu près 70 patients. La personne peut faire un auto-sevrage, c'est intéressant, consulter un addictologue et faire ce travail justement d'auto-sevrage. Et je pense que c'est important pour les auditeurs et auditrices de dire que le sevrage sauvage, par contre, c'est autre chose. C'est des personnes à qui on retire brutalement et violemment le produit. Et le dire haut et fort qu'un sevrage sauvage en alcoolologie, la personne peut mourir, docteur Bonin.
Oui, l'alcool L'arrêt de l'alcool, l'alcool c'est le seul produit, la seule drogue dont l'arrêt peut être mortel. Autant, par exemple, arrêter l'héroïne, c'est une expérience terrible, avec un vécu de mort imminente, et donc c'est l'impression qu'on va mourir dans les minutes, les heures qui suivent, mais on n'en meurt pas. On ne meurt pas du sevrage d'héroïne, aussi extrême est cette expérience. Par contre, on peut mourir d'un arrêt, d'un sevrage de l'alcool, donc ça ne s'improvise pas, et c'est vrai que moi, pour savoir si je conduirais le patient plutôt vers un sevrage hospitalier ou à la maison, ma question c'était de voir avec le patient, la personne qui veut arrêter de boire ou se mettre à distance de son boire, son entourage. Est-ce que le risque il est les premiers jours? Après, plus on s'éloigne du dernier verre, plus le risque létal s'éloigne. Et donc c'était de voir, est-ce que dans son entourage proche, dans son entourage en qui il a confiance, est-ce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir être 24 heures sur 24 présent avec lui. Et quand je travaillais en XAPA, avant de se lancer d'être au premier jour de ce sevrage, je prenais le temps de repérer, de faire entre guillemets la liste des personnes qui font partie de cet entourage de confiance, de la personne qui veut arrêter de boire, et de recevoir ces personnes. Donc ça peut prendre quelques semaines de préparation pour m'assurer avec le patient que j'accompagne de l'adhésion de l'entourage à être présent pendant les premières 24 heures. Et donc, pour moi, c'est la question clé. Est-ce que, pour savoir si on fait plutôt un sevrage hospitalier ou un sevrage à la maison, c'est de savoir, est-ce qu'il y a du monde qui, pendant les premières 24 heures, va pouvoir être présent pour éviter de mourir dans ce projet de se mettre à distance du produit.
Entre faire un sevrage thérapeutique dans un centre de cure pendant à peu près 3 mois et le faire à la maison où l'entourage est important pour qu'il soit bien étayant, que la personne ne soit pas isolée, une personne qui vit seule, je pense que c'est important d'aller en centre de cure. Quand vous dites mettre le produit à distance, le faire à la maison, on surveille un peu les constantes. Il faut savoir qu'un sevrage physique, il faut compter 10-12 jours pour retirer le produit du corps. C'est pour ça qu'entre parenthèses, c'est intéressant le Dry January qui ne concerne pas le mois de défi sans alcool, au mois de janvier en France. Il ne concerne pas les gens qui sont addicts, mais des personnes qui communément boivent un petit peu et se disent voilà, comment je réagis en mettant le produit à distance. Pour revenir au niveau du sevrage, ouais, il faut compter à peu près 10-12 jours pour retirer le produit du corps, bien qu'au niveau thérapeutique, ça prend du temps, que les rechutes peuvent faire partie du traitement lui-même. Le centre de cure est intéressant. Moi, je dis souvent aux patients, il faut le prendre un peu comme une retraite un peu spirituelle. On se retrouve soi-même. C'est pas simple non plus. Arrêter le tabac et l'alcool en même temps, c'est pas simple pour beaucoup de patients. Et le faire à la maison, oui, il faut qu'il y ait un environnement qui soit sain, absolument pas toxique, pour que les choses se passent au mieux. Mais après, on sait très bien, dans cette thérapeutique, docteur Bonin, c'est vraiment la durée, comment revivre. Et je pense pour chaque patient, c'est différent, c'est singulier. Certains pourront revenir au produit de façon sereine et apaisée. D'autres, il faudra une abstinence à vie, hein, comme le témoignage qu'on a eu la semaine dernière. C'est une personne qui a pris conscience, elle a pris conscience que le produit ne pourra plus faire partie de sa vie, mais que les rechutes en font partie.
Pendant longtemps, effectivement, l'abstinence était la seule voie imaginée de soins, de traitement. On pouvait se sortir de l'alcool, on pouvait se sortir d'un quelconque produit, que ce soit le tabac, le cannabis, l'héroïne, l'alcool, que par le zéro consommation. Et puis, l'expérience nous a montré que pour certains, c'est justement parce qu'on visait le zéro consommation que ils n'arrivaient pas à l'atteindre, en fait. Ça faisait trop violence. Donc, c'est au patient de définir ce qui peut être son objectif atteignable. Et c'est là où il peut y avoir conflit souvent avec l'entourage proche, la famille. C'est que souvent, la famille n'imagine, parce qu'elle souffre aussi avec la personne qui boit. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. C'est tout un groupe qui souffre, chacun à sa manière. Et souvent, la personne qui boit sent au fond d'elle que peut-être il est jouable que le zéro alcool soit l'objectif, mais qu'il vise le zéro alcool par pression de l'entourage qui a tellement eu peur, a tellement souffert, a tellement espéré et est tellement retombé que l'entourage, la famille ne voit que le zéro alcool comme possible pour que celui qui boive ne puisse être plus embêté. Et ça, c'est pas facile pour que celui qui boit réussisse à être, je dirais, ajusté à lui-même, parce qu'il est le seul véritablement à savoir ce qui est bon pour lui.
Merci docteur Bonin, à la semaine prochaine.
L'instant addicto.